Les podcasts du Figaro.
Alors, la première question que je poserai à mes interlocuteurs, c'est de savoir pourquoi la majorité présidentielle veut inscrire dans la Constitution le droit à l'avortement. La deuxième question, élargir la majorité. Est-ce que élargir la majorité, c'est pas une mission impossible pour la première ministre, Madame Elisabeth Borne? Et puis, troisième question, qui est d'une actualité brûlante, puisque le président de la République assiste actuellement à un sommet de l'OTAN à Madrid, on va savoir si cette guerre en Ukraine, qui dure maintenant depuis 4 mois, si cette guerre peut, à terme, diviser l'opinion française, parce que la France est quand même, d'une façon ou d'une autre, assez engagée dans ce conflit qui est aux portes de l'Europe. Voilà, c'est avec mes interlocuteurs que nous allons réfléchir à tout cela pendant 52 minutes ce soir. Bienvenue au club Le Figaro Politique. Bonjour Philippe Gély.
Bonsoir.
Alors Philippe Gély est directeur adjoint de la rédaction du Figaro, vous êtes plus particulièrement chargé de l'international et vous avez longtemps été correspondant alors à Jérusalem, à Bruxelles, mais aussi aux États-Unis. Ouais. Et ça va pas mal nous servir, j'imagine, ce soir. Sophie Dravinel, bonsoir. Bonjour, vous êtes grand reporter au service politique et vous suivez plus particulièrement la gauche, mais pas uniquement, tout comme d'ailleurs Loris Boischaut, qui est journaliste au service politique, mais qui s'occupe beaucoup des problèmes institutionnels, ce qui n'est pas inutile en ce moment, avec une oreillette qui commence à m'ennuyer sérieusement. On va la lâcher. Marie-Virginie Klein, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes notre ce qu'on appelle notre regard extérieur. Bienvenue.
Merci.
Vous êtes experte en communication politique. Vous êtes à la tête d'un cabinet de conseil, d'ailleurs, qui s'appelle
Iconique.
Iconique. Et vous venez de sortir un livre il n'y a pas très longtemps. C'était au début de l'année. Femmes dirigeantes, comment elles ont osé, tout un programme, et c'est aux éditions Plon. Alors, la première des questions, c'est une question qui nous vient d'outre-Atlantique. Je replace un peu le contexte, un changement complet de jurisprudence aux États-Unis de la Cour suprême américaine. Jusque-là, l'avortement était accordé à tous les États au terme d'un arrêt de 1973, et puis il y a eu une décision qui renvoie aux États fédérés la responsabilité de ce droit à l'avortement, et il y a plusieurs États qui risquent, dans les jours ou les semaines qui viennent, de limiter ce droit à l'avortement. Alors d'abord, pour fixer un peu le débat, Philippe, j'aimerais bien vous entendre, parce que chez nous, ça prend un tour très politique, c'est un tour très politique aux États-Unis. Mais chez nous, il y a une loi qui a été adoptée en 1975. Là-bas, il n'y a pas de loi, c'est une décision de justice.
Enfin, il n'y a pas de loi, fédérale.
Fédérale.
Mais il y a beaucoup de lois dans les États.
Oui, oui.
Certaines qui favorisent, qui protègent le droit à l'avortement. D'autres qui le limitent, qui l'encadrent ou qui essayent de l'interdire.
Ouais.
Ce que la Cour suprême a fait, c'est d'abroger la garantie constitutionnelle de ce droit. C'est-à-dire que en 73, les juges dont on nommait souvent de préciser qu'ils avaient voté à 7 contre 2 en faveur de la protection du droit à l'avortement, sur ces 7, 5 d'entre eux étaient républicains en 73.
Oui.
Et l'arrêt Roe v. Wade, qui est donc cet arrêt qui a créé cette jurisprudence, a été confirmé en 1992, de nouveau par 5 juges républicains. Aujourd'hui, les temps ont changé, on a affaire à une cour politiquement majoritairement à droite, mais aussi où la droite chrétienne est surreprésentée. Il y a notamment 6 catholiques dans cette Cour suprême. Historiquement, la tradition aux États-Unis était que il pouvait y avoir au maximum un juge catholique, parce que il y a eu longtemps une méfiance du pouvoir américain envers le Vatican. Et bon, on se souvient
à l'époque de Kennedy. Des présidents catholiques, hein.
Oui, à part Kennedy et
peut-être. Et Biden.
Et Biden, voilà. Tout ça pour dire que ce qui s'est passé est absolument exceptionnel parce que sur les 50 dernières années, c'est probablement la seule fois que la Cour suprême américaine a abroger un droit civique, civil existant. Ça, c'est pratiquement du jamais vu. Et évidemment, ça ouvre la porte, parce qu'ils se sont appuyés essentiellement sur le 14e amendement, pour dire qu'il ne fait pas de référence explicite à l'avortement, ce qui est vrai. Mm-hmm. Bien sûr, il ne fait pas explicitement référence à l'avortement, mais il prévoit que puisse être protégé tout un tas de droits ayant trait à la vie privée, des droits privés, si vous voulez. Et la Constitution américaine, dans son 9e amendement, dit spécifiquement que les droits protégés par ce texte ne se limitent pas à ceux qu'il énumère, et donc ouvre la porte à ce que des droits nouveaux soient protégés. Bon, on reviendra ensuite peut-être sur le sous-texte politique de cette décision.
Mais on va revenir dessus. Avant d'engager le débat sur ce qui se passe en France, je vous invite à écouter Aurore Berger, qui est la nouvelle présidente du groupe de la majorité présidentielle à l'Assemblée nationale, le groupe Renaissance, et puis François Bayrou, qui est beaucoup plus réservé.
Les droits des femmes sont toujours des droits qui sont fragiles et qui sont régulièrement remis en cause. Je vois dans les nouveaux députés qui sont installés depuis cette semaine, notamment du Rassemblement national, des députés qui sont des opposants farouches à l'accès des femmes à l'IVG. Et je pense qu'il ne faut prendre aucun risque en la matière et donc le sécuriser en l'inscrivant dans le marbre de notre Constitution. Vous savez que ce sera beaucoup plus difficile, évidemment, demain de le changer. On ne change pas la Constitution comme on change la loi.
Est-ce que c'est utile au pays en ce moment d'aller organiser un référendum sur cette question? C'est quand même surprenant que ce soit ce qui se passe aux États-Unis, qui est très grave, je vais y revenir en une phrase, ce qui se passe aux États-Unis, qui, comme si on appuyait sur un bouton, entraîne un certain nombre de réactions effervescentes dans la vie politique française. Notre société, notre civilisation même, on peut dire, n'est pas le décalque de ce qui se passe aux États-Unis.
Alors, Sophie Draminel, comme disait Philippe, il y a un sous-texte dans ce que dit, d'après moi, Aurore Berger, pas François Bayrou qui cadre les choses, mais d'après moi, il y a un sous-texte. Est-ce que vous voyez un sous-texte aussi, vous ?
Bien sûr, il y a un souhait de montrer que...
C'est pas anodin, actuellement.
Pas anodin, que cette majorité absolue qui leur permet de gouverner comme ils le souhaitent avec l'Assemblée et l'exécutif, et donc ils ont besoin d'un texte qui soit un peu symbolique.
Qu'est-ce que vous en pensez, Marie-Virginie Klein ?
Alors, on voit bien l'intérêt, en situation de faiblesse comme ça, du gouvernement d'arriver à un accord avec tous les partis sur l'inscription de l'IVG dans la Constitution. Moi, je me permets, sur ce sujet que je trouve très sensible, juste de rappeler une chose, c'est que l'IVG, c'est quand même un sujet important qui fait souffrir énormément de femmes et toutes celles qui y ont accès. L'IVG de confort, c'est quelque chose qui est extrêmement rare. Et donc, d'abord, sans vouloir rentrer trop dans l'émotion, je tiens à rappeler que c'est un sujet extrêmement douloureux. Une fois que ça s'est dit, moi, ce que je vois comme intérêt qu'il y aurait à inscrire le droit à l'IVG dans la Constitution, il est moins législatif que symbolique.
C'est-à-dire que purement symbolique.
C'est purement symbolique. Et aujourd'hui, avorter, c'est encore, même s'il y a 9 Français sur 10 dans les sondages qui s'y disent favorables, c'est encore quelque chose qui est très mal perçu, ou qui peut être très mal perçu, ou en tout cas qui est extrêmement tabou, dont on parle peu, etc. Inscrire le droit à l'IVG dans la Constitution, ce serait presque le mettre au niveau du droit de vote ou du droit de la liberté d'expression. Et donc, symboliquement, ça serait un peu une avancée aussi pour libérer la parole sur ce mouvement.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est là où Philippe peut intervenir, parce qu'aux États-Unis, justement, ils disent « mais c'est pas du tout à la Constitution fédérale de s'occuper de tout ça ».
Oui, en fait, c'est un peu
hypocrite, parce
qu'il renvoie aux États la responsabilité. Ça a l'air très démocratique sur le papier. Aux électeurs de d'élire leurs représentants dans les États et à ses représentants de décider de la loi. En réalité, la faille, et je pense à l'inverse, notre avantage en France, on est capable de consensus sur ces questions-là. C'est-à-dire qu'on est capable de légiférer, on est capable de mettre ensemble des représentants de la nation, des médecins, des représentants des religions, et ces gens-là sont capables de faire l'effort de trouver un terrain à peu près acceptable. Ce qu'il faut voir aux États-Unis, c'est que lorsque l'IVG a été autorisée, elle a été autorisée jusqu'à la viabilité du fœtus, c'est-à-dire qu'on arrivait jusqu'à 24 semaines. ouais. dans certains
la
États.
La durée était très longue.
C'est-à-dire, il y avait pas de comité d'éthique, il y avait pas de médecins, il y avait pas de prêtres
ouais.
Qui se sont penchés sur cette question et qui ont essayé de trouver un terrain de compromis. Bien sûr, un bon compromis, c'est quelque chose qui fâche également tous les partenaires. Voilà, les Américains ne sont pas capables de ça, et du coup, ils se retrouvent entre les mains de juges qui eux-mêmes et là, de manière vraiment flagrante, font passer la politique avant le droit. Comme avant, d'ailleurs, on peut le dire à l'envers. On peut dire que les juges précédents faisaient aussi passer leurs opinions personnelles et dans leur interprétation de la Constitution. Mais je rappelle qu'ils étaient aussi républicains.
Loris, alors moi je vois aussi une petite malice, peut-être, qui consiste à se tourner un peu sur la gauche de l'hémicycle, à calmer un peu les bouillonnants Nupes et autres, et puis à montrer que finalement, parce que c'est aussi ce qu'a dit le président de la République, c'est que certes ils sont à l'Assemblée, mais ils sont peut-être pas dans l'arc républicain, et ils posent pas de signe égal d'ailleurs, si j'ai bien compris, le Rassemblement National, il y a quand même au Rassemblement National probablement des sensibilités anti-avortement.
Absolument, et c'est tout le pari aussi d'Aurore Berger en proposant ce texte, c'est de démasquer, comme elle dit, le Rassemblement national en poussant les 89 députés, un chiffre historique dans l'Assemblée nationale, qu'on a vu arriver en masse cet après-midi pour la première séance dans l'hémicycle, pousser ces députés Rassemblement national à sortir du bois sur ce sujet qui est effectivement fait l'objet de débats. On a au sein du Rassemblement national des députés qui ont pu considérer par le passé l'avortement comme un génocide.
Certains
le considèrent toujours comme un génocide.
Ce qui n'est pas le cas de Marine Le Pen, je crois.
Non, pas du tout. Et justement.
Non. Et la ligne du parti, effectivement, il faut le préciser, c'est de ne pas revenir sur la loi Veil. Mmh. Ça, c'est la loi du parti. Mais à l'intérieur, il y a effectivement, et parmi les députés, Rassemblement National, des élus qui sont très clairement contre le droit à l'avortement. Et on voit très bien que ça gêne Marine Le Pen. Premier exemple dans l'interview qu'elle donne au Figaro ce soir sur le web demain.
Alors,
dans le journal.
Que dit-elle?
Elle est assez gênée dans son positionnement par rapport à un éventuel vote de ce texte-là. Et donc, on voit très bien que cet objectif, qui consiste aussi à gêner le Rassemblement national, fonctionne déjà pour les élus de la majorité. Deuxième enjeu aussi pour elle, pas oublier qu'elle a été élue mercredi dernier à la tête de ce groupe Renaissance, ex-LREM. Elle veut poser un premier jalon, une première marque de sa nouvelle présidence avec ce sujet qui fait consensus au sein de La République En Marche, mais pas au sein de la majorité. On a entendu ce que disait François Bayrou. C'est le risque aussi qu'elle a pris de gêner ses alliés qui, disent-ils, n'ont pas été mis dans la boucle, n'ont pas été informés de cette initiative qui a été prise dans la nuit de vendredi à samedi par Aurore Berger, évidemment en consultant Emmanuel Macron et Elisabeth Borne.
Il y a un peu de flottement dans la majorité, vous dites ?
Un peu de flottement, le sentiment de ne pas avoir été associé et un débat aussi sur la nécessité de toucher la Constitution sur cette thématique-là. Beaucoup considèrent qu'il faut toucher la Constitution avec la main tremblante seulement. Et aussi une critique qu'on a entendue hors micro dans la majorité, une critique qui consiste à dire pourquoi réveiller ainsi une certaine frange de la population anti-droit à l'avortement. C'est le meilleur moyen de créer un clivage sur un sujet qui est plutôt consensuel.
Il y a d'autres priorités, c'est ça qu'a voulu dire d'ailleurs Bayrou.
Oui, c'est ce qu'a voulu dire François Bayrou, évidemment. Et quand au sein de la NUPES, on me dit « mais c'est pour ça qu'il vaut mieux un projet de loi et que donc le gouvernement prenne ses responsabilités plutôt que de faire porter sur les parlementaires la seule responsabilité via une proposition de loi, donc en proposant ce que je disais tout à l'heure, en obligeant à un référendum et donc à un débat national, sachant que tout le monde est à peu près d'accord sur le fait parmi ceux qui sont favorables à l'inscription dans la Constitution, sont d'accord sur le fait que c'est pas forcément le moment de réveiller les émotions de l'opinion.
Marie-Virginie Klein, ça a une chance d'aboutir, cette proposition de loi ? Enfin, cette proposition en général.
Moi, je pense, parce que quand on voit les réactions absolument immenses qui ont jailli un peu partout sur les réseaux sociaux sur cette question, je pense quand même qu'on peut dire qu'on a une grosse partie de l'opinion qui soutient cette...
Mais c'est pour autant qu'ils vont aller jusqu'au bout ?
Alors, Pour revenir sur le cas de Marine Le Pen, que moi j'ai pu l'interroger dans le cadre de mon livre, elle est mise très mal à l'aise sur cette question pour deux raisons. D'abord parce que un de ses objectifs, c'est de continuer la dédiabolisation de son parti. Donc, en s'inscrivant contre ce projet, je pense que ça serait la seule, elle contribuerait pas à dédiaboliser. Et deuxièmement, elle fait quand même le pari de la féminisation d'elle-même et de son parti. Vous avez vu les députés, oui, il y a énormément de femmes maintenant dans le groupe. Et donc, elle-même a fait un peu ce que j'appelle son coming out de la féminité. Enfin, elle parle du sujet des femmes, etc. Elle a fait l'émission de Karine Le Marchand. Elle en a fait quand même beaucoup dévoilée, pendant si la campagne. Dire, oui. Et ça serait un petit peu fort de café de s'inscrire ensuite contre ce projet de loi après avoir fait toutes ces avancées vers ces sujets-là.
À cet égard-là, elle a changé de ligne d'ailleurs. 2012.
Parce qu'il y avait un problème de remboursement.
Voilà,
moment,
exactement. En 2012,
hein. elle était pour le déremboursement.
Déremboursement de ce qu'elle appelle des IVG de confort.
Ouais.
Et en 2017, et en 2022, elle biffe de son programme cette proposition.
Juste un mot politiquement. Oui, on comprend les sous-entendus et les intérêts qui se manifestent dans ce débat. Mais quand même, sociologiquement, philosophiquement, la justification est inexistante. Jusqu'à preuve du contraire, la Cour suprême américaine n'a pas juridiction sur la France. Mmh. Le sujet n'est pas posé.
Mais.
Et pourquoi cette réaction, comme si tout d'un coup on était menacé, enfin le mode de fonctionnement de la société française était menacé par quelque chose qui se passe aux États-Unis.
Je pense que c'est très politique. C'est justement pour essayer de montrer vers l'union.
Oui, mais il y a quand même, je pense aussi, une espèce de réflexe.
Oui.
C'est arrivé là-bas, ça peut arriver demain.
Tout ce qui arrive aux États-Unis peut arriver en Europe.
Souvenez-vous de ce qu'on disait sous le ministre Sarkozy, un fait divers, une loi.
Ouais.
Et là, c'est un événement à l'étranger, une proposition de texte en France.
Quand même, philosophiquement, c'est de se dire, on n'imaginait pas, et vous nous le dites, Philippe Gély, que ça puisse être possible un jour aux États-Unis. Et donc, je pense...
On l'imaginait quand même assez bien avec les nominations de juges de ces quatre dernières années, depuis 2016.
Avant les nominations des juges, imaginait-on que cette nomination fût possible?
C'est très, très clair. Moi, j'ai écrit comme correspondant à Washington entre 2016 et 2019 que le principal héritage de Trump, ce serait les trois juges suprêmes qu'il a pu nommer, ce qui est un concours de circonstances extraordinaire, d'ailleurs.
Oui, parce qu'ils sont nommés à vie, attention.
En un seul mandat, il a eu l'opportunité d'en nommer trois, ce qui est énorme. On se souvient que les républicains avaient empêché Obama de nommer un juge pendant toute la dernière année de son mandat, alors que Trump a pu nommer Coney Barrett, la dernière juge, dans les dernières semaines du sien.
On se souvient.
Donc je veux dire, c'est une bataille qui remonte très très loin, c'est une stratégie de longue haleine qu'ont menée les républicains et enfin une partie.
Les opposants.
De la droite chrétienne américaine.
Après,
alors, il y en a une qui se pose une question, c'est la première ministre. On va changer de sujet, si vous voulez bien. Elle s'appelle Elisabeth Borne, au cas où vous l'auriez oublié, mais je pense pas, quand même. Et Elisabeth Borne, eh bien, est mise au défi d'élargir cette majorité, de faire des propositions au président de la République qui va bientôt revenir de Madrid et de Lisbonne, puisqu'il y a le sommet des océans après le sommet de l'OTAN, et aussi de lui suggérer quelques noms pour former un nouveau gouvernement. J'ai l'impression, mais c'est tout à fait personnel, que c'est la première fois depuis que l'instauration du quinquennat que le poste de Premier ministre reprend des couleurs de la sorte, alors que justement on critiquait et on disait qu'elle n'avait rien à faire et qu'elle était existante, et bien là, elle a du pain sur la planche. Loris, est-ce qu'elle peut élargir cette majorité? Alors, il y a plusieurs choses. Est-ce qu'on élargit la majorité? Est-ce qu'on fait une coalition dans la majorité? Comment on ouvre le gouvernement? Est-ce qu'on peut faire entrer dans le gouvernement des ministres qui viennent d'autres formations politiques? Votre point de vue.
C'est un défi extrêmement compliqué pour Elisabeth Borne, qui tient là son premier baptême du feu politique, si on peut dire, avec cette salve de consultation. La semaine dernière, le téléphone vissé à l'oreille avec les présidents de groupes politiques. Cette semaine, elle reçoit physiquement à Matignon les responsables politiques. Donc, elle enchaîne effectivement ces consultations avec, de côté des oppositions, c'est là qu'il faut regarder, il faut entendre ce qu'ils nous disent. Ils nous disent pas de coalition, pas d'accord de gouvernement. Donc, cette hypothèse-là est, semble-t-il, exclue. Ce qui est plutôt envisagé, y compris dans la majorité, si on veut être réaliste, ce sont des accords au cas par cas sur des textes, des majorités sur des textes qu'il faudra aller chercher les députés un par un. La majorité parie sur quelques prises ci et là, sur certains textes de divers centres, divers gauches, d'ultramarins aussi qui pourraient avoir...
Ce qu'on appelle le groupe utile.
Alors, il y a ce dixième groupe...
Ah bon, il a changé de nom.
Il y a ce dixième groupe effectivement qui mélange, qui est très 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 hétéroclite.
Les ultramarins, les ultramarins,
des
gauche,
des nationalistes corses, également. Ouais. Et donc ce groupe pour le moment se situe a priori dans l'opposition, donc son aval n'est pas garanti pour chaque texte, bien sûr. Donc ce sera un travail au cas par cas sur chaque texte, et ce sera évidemment beaucoup plus de temps. Préparez-vous, Yves, à avoir une navette parlementaire plus longue que d'habitude, des négociations en amont et un Parlement qui revient de ce point de vue-là au centre du jeu.
Alors Marie-Virginie, est-ce qu'on peut pas imaginer, alors en plus de cela, que d'ici à la fin de semaine, eh bien, ou alors en début de semaine prochaine, on découvre un gouvernement avec quelques prises de guerre. On voit quand même dans ce matin dans le Figaro, il y a une soixantaine d'élus, de maires principalement, qui ont signé une tribune. Il y a Jean-François Copé qui arrête pas de s'exprimer en disant
C'est très ouvert, lui.
Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il peut y avoir, il va y avoir un changement de gouvernement, ça c'est sûr.
Oui, alors là, je pense qu'on peut s'attendre vraiment à un changement.
Mais avec la même première ministre.
Avec la même première ministre, parce que là, ça serait un aveu de faiblesse très fort pour le président de changer de première ministre. En plus, peut-être qu'on y reviendra après, mais sur le fait que ce soit une femme, etc. Moi, je pense quand même que c'est une mission quasiment impossible qui lui revient. Je pense que c'est une mission quasiment impossible, parce que même si elle arrive à ouvrir un petit peu son gouvernement, si elle n'a pas une prise de guerre, mais qui soit vraiment un symbole fort et qui reflète quelque chose d'important dans l'opinion, ça aura un effet très limité sur la popularité du gouvernement, sur la popularité du président, du premier ministre. Juste un petit, quand même, je peux pas m'empêcher de faire un aparté sur le sujet des femmes dirigeantes, puisque quand même, c'est mon sujet du moment.
Et comment
Je regrette quand même qu'on ait mis une femme Premier ministre au moment où politiquement, on est dans une situation qui est complètement enflammée et inflammable. Ça me renvoie aux propos que m'ont dit, par exemple, des Anne Lauvergeon, des Nathalie Kosciusko-Morizet. C'est-à-dire, quand c'est difficile, quand c'est vraiment difficile,
on met une femme.
Je joue ma partition. Ouais. Je joue ma partition, mais Anne Lauvergeon, donc qui était l'ancienne patronne d'Areva,
Sherpa de François Mitterrand, voilà, aussi,
et qui avant ça dirigeait la COGEMA, m'a dit mot pour mot, voilà, on m'a donné la direction de cette entreprise pour une seule raison, c'est que c'était l'entreprise la plus détestée de France. Sinon, évidemment, qu'elle serait revenue un homme. Je sais que tout ça est discutable, que c'est davantage de l'ordre de l'émotion que du rationnel, mais quand même, on a une femme Premier ministre, la première depuis Edith Cresson, qui d'ailleurs a laissé un souvenir mitigé aussi dans les opinions. Moi, j'ai qu'une crainte, c'est que cette deuxième femme Premier ministre soit aussi face à une situation quasiment politiquement ingérable et qu'elle se retrouve dans une issue et que finalement, ça soit un nouvel échec.
Oui, mais Sophie, quand même, on sent dans certains groupes d'opposition que on veut être responsable. C'est vrai, au Rassemblement National, c'est vrai chez les Républicains. Il y a quand même cette volonté. Regardez, on va écouter Olivier Marleix, qui est le président du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale et qui était reçu ce matin par Madame Borne à propos du projet de loi là sur le pouvoir d'achat, justement.
On lui a redit que nous étions un groupe d'opposition, donc évidemment il n'était pas question de quelque coalition que ce soit, mais qu'on était là pour essayer de trouver des solutions pour les Français, pour le pays. On va avoir un certain nombre de textes sur lesquels je pense qu'on doit pouvoir travailler ensemble. La question du pouvoir d'achat, à l'évidence, je dirais, on est tous préoccupés par la situation de la dégradation du pouvoir d'achat des Français, donc c'est un premier texte sur lequel je crois qu'on doit pouvoir essayer de progresser ensemble.
Je dis aux parlementaires, soyez responsables. Vous n'avez pas été élus pour nous dire simplement on est élu par conviction et pour faire de l'opposition systématique. Prenons l'exemple des retraites.
Elle est urgente cette
réforme. Les LR. Et nous savons pertinemment que si nous ne faisons pas la réforme des retraites, dans 2 ou 3 ans, nous serons face à un écueil important. Je suis pour le compromis, ce qui ne veut pas dire que je sois pour un appel à la compromission.
Alors Sophie, Ça peut marcher au cas par cas, en dépit de ce que dit Marie-Virginie quand même.
Ça peut marcher au cas par cas, mais ça dépend avec qui. Évidemment, qu'il peut y avoir des ouvertures, on le voit bien chez les sociodémocrates. Loris l'a bien souligné dans ce groupe technique qu'on peut appeler une sorte de liberté et territoire bis. Ça peut aussi marcher dans un pôle aujourd'hui constitué de 6 députés non-NUPES. La NUPES, je pense, nos auditeurs le savent, étant cet accord entre socialistes
oui,
et communistes. Bon, voilà.
Derrière Mélenchon.
Mais je pense que ça marchera avec pour quelques textes au cas par cas, mais ce que veulent, en tout cas en majorité à gauche, les insoumis au sein de la NUPES, et beaucoup d'ailleurs aussi chez les écologistes, une grande part chez les socialistes, même si ce n'est pas tous, c'est un changement de système. Ça n'est pas seulement le rafistolage de quelques mesures destinées à poursuivre un même projet social-libéral, plutôt libéral que social. Et donc, ce qu'ils veulent vraiment, c'est presque, pour certains, et voire une majorité, arriver à la rupture. Et si le
LR... Ça veut dire arriver à la rupture, c'est-à-dire foutre en l'air l'Assemblée nationale.
Ils veulent une dissolution pour pouvoir arriver à un nouveau gouvernement, c'est ce que voulait Jean-Luc Mélenchon, avec sa proposition qui a semblé totalement illusoire de Premier ministre, mais qui voulait manifester la rupture. On voit la même chose chez au Rassemblement national, ils sont évidemment en quête de notabilisation. Ils le veulent.
Ils prennent un risque énorme.
Ils prennent un risque énorme, absolument.
Parce que s'ils retournent aux urnes, il y aura moins de rassemblements. Parce qu'ils sont tenus pour responsables, en plus, du chaos.
Est-ce que c'est ce que veulent ou non une partie des Français? Je ne sais pas. Ils ont vraiment voulu la reparlementarisation de la vie politique française.
Oui. Ce qui est très clair, c'est que la dissolution est une arme pour Emmanuel Macron, qu'il va mettre au-dessus de la tête des députés pendant les mois à venir pour les pousser justement à la construction, à des accords sur des textes. C'est une arme très précieuse. Et un député de la majorité me disait encore ce matin que c'est à ses yeux la meilleure arme d'Emmanuel Macron et d'Elisabeth Borne par voie de conséquence pour menacer cette majorité et pour la pousser à adopter des textes avec le risque évidemment d'un retour de bâton et pense aussi d'un risque d'un vote sanction amplifié contre Emmanuel Macron en cas de dissolution et de nouvelles élections.
Philippe.
Quand on regarde nos voisins européens, savent tous faire des coalitions et qu'on se regarde nous-mêmes, on a l'impression que c'est génétique. On n'est pas capable, on ne sait pas dans nos gènes, on ne sait pas le faire. Bon, c'est peut-être génétique pour la Ve République, mais fabriquer des coalitions, ça se travaille. C'est un travail, ça s'apprend et ça se fait pas en quelques jours. Mmh. Moi, je ne crois pas du tout à aux coalitions ad hoc. Pourquoi? Parce que le jour où ça ne marchera pas sur un texte important et qu'on ne trouvera pas une coalition ad hoc, il y aura un échec qui sera mis sur le compte du gouvernement. Et quand ce sera un deuxième texte, ça sera de nouveau un échec. Et à chaque fois, ce gouvernement perdra un crédit considérable. Et au bout de deux échecs, je pense que plus personne ne voudra faire une coalition ad hoc avec le gouvernement. Et que donc... c'est pas la bonne méthode, et je pense que Emmanuel Macron ne laisse pas le temps à Elisabeth Borne de former quelque chose qui soit solide, qui puisse fonctionner dans la durée sur des thèmes sur lesquels on se soit accordé d'avance, et que cette espèce de schmilblick de la coalition ad hoc, j'y crois pas du tout, et je pense qu'on va droit dans le mur avec ça.
Oui, alors que l'exemple, c'est l'exemple allemand.
Les Allemands, ils mettent 2 mois et demi à fabriquer une coalition. Ils travaillent tous les jours, et tout est écrit, et ensuite, ils savent où ils vont.
Vous êtes d'accord avec ça, Marie-Virginie?
Je pense que malheureusement, on n'est pas aussi sage que les Allemands et qu'on a plus de mal à faire des concessions. Je note quand même un paradoxe, c'est que les mêmes partis qu'Emmanuel Macron a détruits de ses propres vœux en 2017, ce sont ces mêmes partis aujourd'hui qu'il appelle de ses vœux pour sauver sa propre présidence. Donc on a quand même le PS, les LR.
C'est lui qui les a détruits qui se sont fait renvoyer dans leur but par les électeurs.
C'est cette nouvelle donne politique dans laquelle on n'est plus dans les partis et dans lesquels...
Alors, attendez, vous avez un petit problème de micro, Sophie, ils vont arriver, les pompiers arrivent.
Et moi, je pense quand même que la carte à jouer, elle est plutôt du côté des LR, parce que pour eux, c'est une chance inédite de faire enfin passer les lois que soutiennent leur électorat, et ils peuvent pas attendre 5 ans avant d'agir. Ils peuvent pas attendre 5 ans.
Il y a un grand dilemme chez les LR, en effet.
Et je pense que évidemment qu'ils le feront pas comme ça, qui c'est la stratégie de Marlex là qu'on entend, ils vont se faire désirer, ça va prendre du temps, mais ils n'ont pas le choix, ils vont devoir quand même discuter et travailler avec
l'argument
le gouvernement
c'est que,
en place.
Une partie de leur électorat, enfin l'électorat qui est resté chez LR serait très anti-Macron.
Ouais, ouais.
Mais je pense qu'il y a aussi un électorat historiquement LR aujourd'hui proche de Macron et qui pourrait reprocher dans l'avenir au LR d'avoir bloqué le deuxième mandat de Macron. Donc ouais, c'est enfin, je suis pas expert en politique française, mais ça me paraît compliqué.
Et dès maintenant, d'ailleurs, avec le projet de loi pouvoir d'achat, on imagine
ça sera un bon test, non, Loris?
Donc ce sera évidemment le premier test de ces accords éventuels pour faire adopter des projets de loi, avec là aussi des députés LR qui vont évidemment faire des propositions, mais on les imagine mal quand même revenir en circonscription l'été pendant la pause parlementaire en disant à leurs électeurs on n'a pas voté ce projet de loi pouvoir d'achat qui est considéré comme étant très urgent. Donc je pense que sur ce point-là, on aura un accord, évidemment une majorité pour l'adopter.
Sophie.
Oui, il y aura une majorité pour l'adopter, mais je pense que ce qui... entre guillemets, il ne faut pas que le gouvernement, si mon micro marche, là,
c'est oui, bon. Oui, il marche très bien.
Il ne faut pas que le gouvernement n'ait pas en tête le message que les Français ont voulu leur adresser et que les partis politiques aillent trop vite sans avoir effectivement pris le temps de vraiment travailler, de vraiment fonder quelque chose, de refonder. D'ailleurs, c'est ce que voulait Emmanuel Macron aussi, de refonder un peu la vie politique. Parce que ce qui menace, c'est quand même une rentrée sociale forte. Alors Jean-Luc Mélenchon, en 2017, l'avait souhaité, l'avait embarqué, l'avait
oui,
voulu.
Ça n'a pas réussi. Hein.
Voilà, ça n'avait pas réussi.
C'est les Gilets jaunes qui
absolument,
ont réussi, mais c'est pas
absolument,
lui.
Absolument, ce n'est pas lui qui a réussi. Là, on sent quand même qu'il y a quelque chose qui reste tendu, évidemment, avec, je parle sous votre contrôle, des menaces à l'international en matière de géopolitique, en matière économique, en matière d'énergie.
On va en parler de ça.
Voilà, après. On va en parler. Mais c'est quelque chose qui est extrêmement fort sur notre vie politique nationale, y compris parlementaire. Et c'est-à-dire que nous, comme observateurs, on voit bien ces tensions. Et moi, je les vois au sein de la NUPES, où même des socialistes modérés me disent « on va proposer le SMIC à 1500 euros et on verra bien ce qu'ils disent ». Il y a quelque chose, je trouve, d'assez raide, voire rude, dans le rapport politique, qui est assez inédit et qui peut être le prémisse de ce bouillonnement social qu'on attend à la rentrée.
Et que l'Assemblée peut peut-être mieux absorber qu'auparavant, parce qu'elle est plus pluraliste.
Absolument parlementaire. Elle
est, c'est une Assemblée, certains disent, élue quasiment à la proportionnelle, comme si elle était élue à la proportionnelle,
oui.
La proportionnelle qu'Emmanuel Macron avait promise, et que finalement, là, lui revient en pleine face, malgré ce scrutin majoritaire.
Elle va
et
pouvoir faire un oreiller, effectivement, contrairement à l'époque des Gilets jaunes, où ça n'avait pas pu être le cas.
On peut faire le pari, voilà, effectivement, que cette Assemblée, plus plurielle, absorbe davantage les tensions qu'il y a dans la société, et que l'Assemblée redevienne un théâtre
ça
d'expression.
Ça se passe moins dans la rue et davantage dans l'hémicycle. Il y a aussi le rôle, Marie-Virginie, du Sénat, puisque en fait, le Sénat, lui, les sages, comme on dit, chambre qui est à majorité de droite, mais il ne faut pas l'oublier, dans le dernier quinquennat, ils ont voté énormément de textes, certes, parfois en les amendant, mais énormément de textes qui venaient de la majorité. Hein.
Et je pense que c'est d'ailleurs la stratégie du gouvernement, c'est-à-dire que s'ils ont effectivement pas la majorité à l'Assemblée nationale, ils vont pouvoir faire jouer les deux chambres. Et il y a effectivement pas qu'une chambre, et c'est une autre spécificité de notre système français. Même si
le
aujourd'hui, même si aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de Français qui savent plus trop tellement à quoi sert le Sénat et qu'on en a une image justement de vieux sages qui décident des lois et qui sert à rien. Peut-être effectivement qu'il va retrouver un petit peu de son utilité et de sa verve.
Alors, je vais me livrer à un petit jeu.
Ah. Attention.
On va commencer par Sophie, tiens.
Oula.
Alors, ça va durer combien de temps tout ça?
Soit 6 à 9 ou 12 mois, soit 5 ans.
Ah, d'accord. Loris?
Plutôt 2 ans, jusqu'aux élections européennes au moins.
Avec la même première ministre, alors, donc?
Pardon, je parlais de l'Assemblée.
De l'Assemblée.
Une éventuelle dissolution en cas de dysfonctionnement.
Alors, d'accord. Et vous aussi?
Oui.
Édith Cresson est restée 9 mois au pouvoir. Il peut pas, Elisabeth Borne ne peut pas rester moins longtemps. Donc, moi, je parierais sur au moins 1 an.
D'accord. Philippe?
1 an maximum.
Un an maximum. Bon, bah, vous voyez. C'est pas joué tout ça, hein. Alors, il y a un autre sujet de préoccupation dont on parle un tout petit peu moins, puisqu'il y a tout ce maelstrom parlementaire en France. C'est évidemment la guerre en Ukraine, qui a commencé il y a maintenant quatre mois.
On est à l'entame du cinquième mois.
Oui, on est à l'entame du cinquième mois, c'est ça.
125.
Et le président de la République, pas plus tard qu'aujourd'hui, depuis Madrid, a dit les sanctions dureront aussi longtemps que dure cette guerre. Et il dit aussi quelque chose qui est assez vrai, d'une certaine façon, c'est qu'il dit que l'inflation est toujours un produit d'exportation. En gros, s'il y a de l'inflation aujourd'hui, c'est aussi à cause de cette guerre en Ukraine. C'est pas tout à fait vrai complètement, mais en partie. Alors, cette guerre jusqu'à présent n'a pas trop divisé la société française ni les partis politiques, mais, écoutez.
La Russie ne peut ni ne doit gagner. Et donc, notre soutien à l'Ukraine et nos sanctions contre la Russie se maintiendront aussi longtemps que nécessaire et avec l'intensité nécessaire durant les prochaines semaines et les prochains mois.
Vous vous souvenez que nous avons parlé d'accroître la pression sur le pouvoir autour de Vladimir Poutine, les oligarques. Vous avez remarqué comme on n'en parle plus depuis un certain temps. Ça n'a pas été fait. Sur la Côte d'Azur, ici en France, vous avez des biens qui devraient être saisis, qui devraient être confisqués pour isoler Vladimir Poutine de l'oligarchie qui l'entoure et qui maintient son pouvoir en place.
Est-ce que Cuba, Castro, a cédé sous le coup des sanctions américaines? Est-ce que l'Iran a cédé? Est-ce que, voilà. Et on peut multiplier les exemples, le Venezuela. Et donc, ces sanctions ne feront jamais baisser la Russie. Par contre, qui paye la note? Champion. Ça va être les Européens.
Alors, ma question, elle est double. Elle est d'ailleurs à tiroir, elle est multiple. La première question, c'est l'histoire des sanctions. Les sanctions qu'on inflige à la Russie qui nous reviennent en boomerang et qui, évidemment, nous marquent également. Et deuxièmement, aussi, la fourniture d'armes aux Ukrainiens pour qu'ils puissent se défendre face, avec le risque, justement, qu'on soit considéré comme des co-belligérants à terme par le cher monsieur Poutine. Philippe, comment vous voyez les choses? Est-ce que... bon, on voit pas encore trop les choses se tendre, mais quand même, là, vous avez vu, c'est...
Oui, en même temps, les camps que représente monsieur Mariani, il a toujours été plutôt gentil avec monsieur Poutine et opposé aux sanctions, quelles qu'elles soient. L'efficacité des sanctions, c'est un très très vieux débat. Effectivement, il y a des gens qui soutiennent que ça ne permet pas d'obtenir le résultat souhaité, c'est-à-dire que on n'arrête pas une guerre avec des sanctions, mais il y a quand même un effet punitif qui est assez mesuré pour les sanctions. Alors, est-ce que parce que les sanctions en elles-mêmes ne suffisent pas à faire rendre les armes à Monsieur Poutine, il faut pas de sanctions? Vous voyez, c'est pas comme ça que ça fonctionne. On n'a pas décidé d'envahir la Russie, Dieu merci. On aide militairement les Ukrainiens jusqu'à un point où peut-être pourrait se poser un jour la question de la co-belligérance. Elle n'est pas vraiment posée aujourd'hui, mais voilà, ce sont les armes de ceux qui ne veulent pas se battre d'une certaine manière. Et les sanctions, par définition, c'est l'arme de ceux qui ne veulent pas faire la guerre. Donc, on va continuer à les faire. Je crois qu'il y a un consensus, non seulement en France, mais dans le monde, enfin, dans le monde occidental, en tout cas, et chez les Européens. Il faut voir comment, quand Emmanuel Macron a essayé d'avoir un discours un tout petit peu dissident, en disant que il fallait pas faire injurier l'avenir, laisser une porte de sortie à Poutine, ça me paraît être des évidences que, quelle que soit l'issue de cette guerre, la Russie va rester sur la carte à l'endroit où elle se trouve aujourd'hui. Et qu'avec Poutine ou sans Poutine, il y aura la Russie. Et ça restera un pays puissant avec lequel il faudra composer. Donc, ça paraît évident. Mais regardez l'évolution sémantique d'Emmanuel Macron au cours des trois dernières semaines. Il ne faut pas humilier la Russie et il faut pas injurier l'avenir. On veut la défaite de la Russie... sans d'ailleurs savoir qu'est-ce que ça veut dire la défaite de la Russie, jusqu'à quel point on
est... À partir de quand elle est défaite?
Donc, les enjeux sont énormes autour de cette guerre. Je pense que Poutine nous a clairement indiqué qu'il n'était pas vraiment de notre côté, qu'il se moquait de l'ordre international, entre guillemets, tel que le défendent les puissances occidentales, et que avec son ami Xi Jinping, il était prêt à en proposer un autre, alternatif, beaucoup moins libéral et beaucoup plus coercitif. Je pense qu'il faut garder ces notions-là à l'esprit quand on se projette au-delà de la du conflit lui-même en Ukraine.
Alors, Sophie, l'OTAN qui n'est plus un cadavre à la renverse, comme disait, enfin c'est pas tout à fait l'expression qu'il avait employée d'ailleurs Emmanuel Macron, mais
parler de mort cérébrale.
Mort cérébrale. Il y en a un quand même qui a dit pendant sa campagne électorale qu'il voulait sortir de l'OTAN. Hein, il
du s'appelle commandement armé de l'OTAN.
Jean-Luc Mélenchon.
Absolument, Jean-Luc Mélenchon.
Mais là, on l'entend plus là.
Disons que pour l'instant, comme il a pas son poste de Premier ministre dont on parlait tout à l'heure, il a mis un petit peu un modulo sur ses propos. Évidemment, je pense que sur les livraisons d'armes dont nous parlait Philippe, il a conservé ces mêmes réticences très fortes. Ce qui est intéressant de voir, c'est que ces réticences-là ont quasiment été retirées du camp des écologistes, qui pourtant historiquement en France, et ce fameux camp de la paix,
pacifiste,
anti-guerre, pacifiste, etc. Je discutais ce matin avec Cyrielle Châtelain, qui est une jeune députée de l'Isère, 35 ans, qui vient d'être nommée coprésidente de ce groupe des écologistes, 23 députés, une force symbolique assez importante. Et cette jeune femme écologiste veut intégrer, ce qui est original, la commission de la défense.
Ah ouais.
Ce qui est assez rare pour une députée écologiste, ce qui est assez notable, intéressant aussi. Et elle me dit qu'elle est assez proche de ce que Yannick Jadot avait, d'ailleurs dans le Figaro, indiqué comme évolution, se rapprochant des Allemands dans la défense d'une forme de réarmement de l'Allemagne, mais aussi d'une défense de l'Ukraine et donc de livraison d'armes à l'Ukraine.
Ah bon ?
Voilà.
Donc c'est un changement de
disons
vue,
que c'est une évolution qui est assez notable chez les écologistes et que Yannick Jadot a enclenché et qui est visiblement suivi des faits en interne.
Marie-Virginie, c'est quelque chose qui peut diviser à terme. Parce que là, pour le moment, on est tous ukrainiens. Allez, pour faire vite.
Oui,
est-ce que ça peut pas à un moment craquer?
D'ailleurs, trois choses. D'abord, on sort de la période législative, donc on avait la tête dans les législatives. Donc maintenant, on peut enfin s'intéresser au vrai sujet. On s'engage quand même dans une guerre d'usure. Et le principal allié de Vladimir Poutine, c'est le temps. Et nous, on voit bien que chez nous, l'inflation augmente, les prix de l'énergie augmentent. En Allemagne, ils sont déjà en train de penser au rationnement. Il y a même le ministre de l'économie allemand qui a dit qu'ils allaient peut-être fermer des usines pour faire des économies d'énergie l'hiver prochain, avec les conséquences sociales qu'on connaît. Donc moi, je pense que ça peut aller quand même très vite, c'est-à-dire que d'un côté il y aura les idéalistes qui feront la guerre à l'Ukraine coûte que coûte, vaille que vaille pour sauver les libertés à la Russie, pardonnez-moi. Et de l'autre côté, il y aura les gens finalement qui verront leur pouvoir d'achat continuer à baisser, qui verront leur énergie rationnée qui se diront bon, c'est quand même un petit peu compliqué d'être aussi radical. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'Emmanuel Macron a, depuis le début, quand même, un langage, même s'il le dit reçu un peu, un langage modéré. D'abord, il a traîné pour aller à Kiev. Il y est allé le 16 juin, quand tous les autres dirigeants y étaient allés bien avant lui. Sur l'armement, il y va mollo, bien plus que, en tout cas, les États-Unis.
Avec les canons César, quand même, maintenant.
Ouais. Et sur l'humiliation, il faut pas humilier la Russie. Lui, il a quand même compris, je pense qu'il anticipe, que ce sujet du pouvoir d'achat qu'on lie directement à la guerre en Ukraine va être un petit peu compliqué à gérer dans l'opinion.
Les Français le lient beaucoup plus à la guerre en Ukraine qu'à la sortie et à la surchauffe de la sortie de la crise sanitaire, hein, j'ai l'impression.
Ah, beaucoup plus.
Mais c'est vrai que le prix de l'énergie a considérablement augmenté, en grande partie à cause de ce conflit, quand même. Hein.
C'est ce point-là, effectivement, qu'il faudra surveiller. Là, il y a un certain nombre de questions qui ne sont pas complètement rentrées dans le débat. Souvenez-vous, la question migratoire, elle n'a pas fait débat, à l'exception d'Éric Zemmour, qui a effectivement qu'il a payé cher et sur lesquels il est revenu quelques jours après. Il y a la question du pouvoir d'achat qui, dès le début, a été mise en avant par Marine Le Pen dès le premier ou deuxième jour du conflit. Elle a dit « attention au pouvoir d'achat des Français », marquant une certaine retenue à l'endroit de ces sanctions justement, et on voit bien que ses soutiens continuent d'insister sur ce point-là. Donc s'il y a un ferment de division dans la classe politique à surveiller, c'est cette crainte sur le pouvoir d'achat qui pourrait être plus forte encore dans les semaines à venir.
Alors ça peut avoir un double effet d'ailleurs, Philippe, parce que cette division qu'on peut imaginer, attention, hein, dans la société française, elle peut aussi commencer à être réelle à l'intérieur même de l'Europe d'ailleurs, et des opinions publiques
européennes. Oui, parce que je pense que tout ce que vous disiez montre que, en fait, même idéologiquement, je pense que c'est en grande partie une unité de façade, dans le sens que les nuances ne peuvent pas s'exprimer. Toute dissidence est a priori vouée aux gémonies parce que vous devenez un anti-ukrainien primaire. Et donc, ça, c'est très malsain, parce qu'évidemment, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat autorisé sur la guerre en Ukraine, sur la façon d'aider les Ukrainiens, en faire plus, en faire moins, alors qu'au contraire, ce devrait être un sujet de débat très vif et très vivant, tout en respectant... et en admirant éventuellement le combat des Ukrainiens, c'est pas le sujet. Mais là, aujourd'hui, vous n'entendez qu'une seule voix. Donc, c'est pas sain, évidemment, quand, comme vous le dites, les prix de, quand, enfin, je veux dire, cet hiver, si le prix du chauffage crève le plafond ou si les gens ne peuvent pas se chauffer, là, toutes ces pudeurs idéologiques vont tomber.
Bien sûr.
Et elles vont tomber dans la société française, elles vont aussi tomber entre les alliés, parce que selon les pays, ils ne subissent pas la même le choc de la même façon. Mais quand on voit que les Allemands en sont à relancer des centrales à charbon, alors qu'ils avaient arrêté purement et simplement le nucléaire après Fukushima pour être plus propre que Monsieur propre, je veux dire, on est en train de faire n'importe quoi, et donc ça va pas durer sur la longueur, sur la durée. Il y a une nuance peut-être avec vous, c'est que vous dites que Poutine, sa meilleure arme, c'est le temps. C'est pas si sûr que ça. Les experts militaires ont l'air de dire que, au rythme où il bombarde l'Ukraine, il en a pas non plus pour très longtemps de réserve de munitions, parce qu'il avance derrière un tapis de bombes et qu'il y a aucune armée dans le monde qui est capable de soutenir ce rythme de bombardement pendant des mois et des années. Et que donc, à l'automne, il se pourrait bien qu'avec les armes sophistiquées que nous donnons aux Ukrainiens,
ce que vous dites dans
s'inverse dans le rapport de force et qu'on assiste à une contre-offensive ukrainienne, où là se poseront des problèmes de géostratégie complètement différents et où on se demandera, et vous verrez les réticences aussi chez les Américains, chez les Européens, jusqu'à quel point doit-on faire mal à la Russie, si par hasard les Ukrainiens se mettaient à prendre le dessus sur le plan militaire.
Ce que vous dites dans l'édito de ce matin d'ailleurs, du Figaro.
Merci de me citer.
Loris, un petit point de droit constitutionnel. Quand la France est engagée sur un théâtre d'opération à l'étranger, il y a un débat à quelle fréquence qui revient au Parlement?
Alors, il y a un débat au Parlement,
mais
qui sans vote, qui est purement consultatif, qui permet à l'Assemblée de se saisir et chaque groupe de s'exprimer. On a vu ce débat-là, mais provoqué par la bonne volonté du gouvernement au moment du déclenchement de la guerre en Ukraine, à la demande, ce n'avait pas un caractère obligatoire, mais c'était à la demande des groupes politiques pour s'exprimer.
Oui, parce que c'est vrai qu'on n'est pas engagé dans le conflit.
On n'est pas, là, bien sûr, engagé dans le conflit, mais malgré tout, il y a eu ce débat-là. Et vous parliez tout à l'heure, à l'instant, des réticences qui n'ont pas pu complètement s'exprimer, passer le mur du son. Il y en a une qui a franchi le mur du son à l'Assemblée nationale, celle de Jean-Luc Mélenchon, et ça s'est fait sous les huées, quand il s'est opposé à la livraison d'armes en Ukraine. C'était l'une des seules voix dissidentes, et on voit bien que ça s'est fait sous l'opprobre général de l'Assemblée nationale, ce qui montre bien la difficulté, effectivement, à avancer en dissidence sur ce sujet-là, plutôt consensuel. Jusqu'à quel point, je ne sais pas.
Ouais. Oui, il y a quelque chose que je trouve intéressant de souligner, si effectivement il y a une forme d'unanimité dans ce soutien, c'est la question de l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Mais qui est intéressant parce qu'il manifeste là, disons qu'on peut entendre dans ce débat des voix que nous n'entendrions pas sur la question de l'armement ou de, disons, urgente de l'Ukraine, parce que on se posait la question à l'automne, l'attitude que nous allons avoir vis-à-vis de la Russie. Il y a la question aussi de la reconstruction, évidemment, de l'Ukraine beaucoup plus tard, et donc des fonds que l'Union européenne devra verser dans ce pays, pour ce pays, pour le soutenir et aider ce pays de 44 millions d'habitants, et la possibilité d'un basculement de l'Europe vers l'Est, avec peut-être, un pouvoir atténué pour la France et l'Allemagne, et donc des tas de questions qui se posent aujourd'hui en Europe.
C'est pas demain matin non plus.
C'est pas demain matin, mais étant donné que cette semaine, on a acté la possibilité à terme pour l'Ukraine d'intégrer l'Europe.
Oui, ce qui est vrai, c'est qu'on a acté, on a déclenché une logique sans y réfléchir et sans en débattre pour sa valeur propre.
Voilà.
C'est-à-dire qu'on a réagi à un événement cataclysmique, qui est une guerre au cœur de l'Europe, mais on n'a pas raisonné en européen qui ouvre la porte ou qui souhaite ouvrir la porte à un pays immense, plus grand que la France,
Avec les conséquences politiques qu'on a vues, par exemple, en Turquie, en Serbie, exactement, sur des promesses qui n'ont pas été suivies des faits.
Marie-Virginie, sans ce conflit, sans cette guerre, l'ouverture des portes de l'Europe à l'Ukraine, c'était inimaginable, ça.
Ah oui, et ce qui est totalement étonnant, c'est que justement, ce pays dont on parlait que très peu jusqu'à présent, soit aujourd'hui l'enjeu principal géopolitique de toute l'Europe. Et effectivement, ça ouvre encore des discussions et des horizons qu'on n'aurait jamais imaginés il y a encore quelques mois. Mais pour revenir à ce que vous disiez au début, on passe quand même de l'ère du tout ukrainien à l'ère du questionnement. Oui. Et sur les opinions divisées, ce qui se dessine quand même, c'est qu'on va avoir les fervents soutiens de l'Ukraine qui vont se dessiner plutôt sur ce qu'on appelle les classes supérieures dans les sondages d'opinion, et ceux qui vont se poser le plus de questions, ce sera les classes populaires.
On va retrouver donc
les divisions classiques, le clivage classique qu'on retrouve déjà au Parlement européen.
Sur la question économique en particulier.
Ouais.
Avec cette, au dernier recensement, ce sont 100 000 Ukrainiens qui sont arrivés, réfugiés ukrainiens, qui sont arrivés en France.
Avec les débats traditionnels liés pour revenir sur l'adhésion éventuelle de l'Ukraine, sur les standards en matière de lutte contre la corruption, par exemple, qui sont imposés pour une adhésion en Europe et qu'on n'a pas forcément vu en Ukraine. Des débats qui vont être très cruels parce que cette population a besoin de tout, sauf que elle a vraiment besoin de notre soutien.
Merci à tous les quatre.
Merci Philippe. Merci Marie-Virginie. Merci Loris.
Merci
Sophie.
Merci Yves.
Merci pour ce débat. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour un dernier débat de la saison. Après, nous reviendrons, vous inquiétez pas, après l'été. Mais la semaine prochaine, qu'est-ce qui va se passer la semaine prochaine, d'ici à la semaine prochaine? On va entendre Madame Elisabeth Borne nous donner ses propositions pour essayer de trouver un moyen de gouverner. Elle aura peut-être des nouveaux noms dans sa besace pour ouvrir son gouvernement à de nouveaux ministres. Et puis, le président de la République, après être passé par la Bavière, Madrid et le Portugal, va revenir en France. Donc, il va s'occuper peut-être un peu plus de la France. Non pas qu'on lui fasse le procès de ne pas s'en occuper, c'est pas vrai. Et puis, les premiers débats à l'Assemblée nationale mardi prochain, avec
un discours de politique générale
mardi prochain de Madame la Première Ministre. Ça sera le baptême du feu le mardi 5. Ça va être passionnant, le Club Figaro Politique, la semaine prochaine. À mardi prochain. Merci, au revoir.